Rien ne me préparait à vivre ces choses-là.
On va sortir progressivement, dans quelques temps, je pense, très rapidement, de l'idée de « je crois aux EMI, je crois au VCD ». Non, l'enjeu maintenant, on passe à l'étape d'après qui est « étudions ça ».
Vraiment, on ne pouvait que le reconnaître lui. C'était « maman, papa, pardon ». Ça arrive plus qu'on ne croit.
Si j'ai la chance d'entrer en contact avec lui, même 3 secondes, faut que j'essaye, c'est tout.
Mais ça va pas, là. Tu te racontes des histoires, là. Paul, il est mort. Il est pas derrière la porte. C'est ça qu'il faut que tu te mettes dans la tête. C'est ça qu'il faut que tu acceptes, enfin. Pas tes conneries de monde invisible.
Si ça me fait du bien d'y croire, si c'est ça qui m'aide, pourquoi je le ferais pas? Ça dérange qui?
Mais moi. Moi, ça me dérange.
J'essaie juste d'aller mieux, Louis, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à perdre?
T'es en train de devenir complètement taré, tu te rends même pas compte.
L'invisible à l'œil nu, épisode 5. Nous sommes en février 2016. Bernard, mon beau-père, vient de rendre son dernier souffle. Nous avions une excellente relation, teintée de respect mutuel, parfois de complicité, notamment au travers d'une forme d'humour dont il se servait généralement comme d'une défense face à ses propres peurs, et parmi elles, indéniablement, il y avait la mort. Nous en avons rarement parlé tous les deux. Je savais qu'elle le terrifiait, il savait que je m'y intéressais, mais le sujet restait tabou. Une quinzaine de jours après ses obsèques, un soir, alors que je regardais à la télévision un film sur un couple d'agents secrets, une étrange expérience s'est produite. Je ne pensais pas à lui à ce moment-là, pas du tout. J'étais plongé dans l'histoire de ce couple d'espions, inspiré de l'affaire du Rainbow Warrior. Mais soudain, j'ai senti une odeur, discrète, subtile, flotter juste en dessous de mes narines, bien présente. Je l'ai aussitôt identifiée comme étant celle de son eau de toilette. Elle était là, et c'est comme si lui aussi était là. L'odeur partait quelques secondes, puis revenait, puis repartait. J'étais très troublé. Cette expérience a duré au total une 20aine de minutes. Alors j'ai inspecté la pièce, les objets qu'elle contenait, le moindre coussin se trouvant sur le canapé, le moindre vêtement adossé à une chaise pour tenter d'identifier la provenance de cette odeur. Mais rien, absolument rien. Elle avait totalement disparu et ne semblait provenir de nulle part. Ce qui s'est passé m'a évidemment beaucoup troublé. Je n'ai pas osé en parler tout de suite. Je craignais qu'on me dise que cette odeur était forcément le produit de mon imagination. Mais non, elle était bien réelle. Ou qu'on me dise que mon cerveau avait décidé soudainement de créer cette illusion pour apaiser le deuil qui nous frappait. Mais dans ce cas, pourquoi l'aurait-il fait à un moment où j'étais concentré sur toute autre chose? Les questions se sont bousculées pendant plusieurs mois, jusqu'au moment où j'ai découvert l'existence de phénomènes similaires réunis sous l'acronyme VSCD, Vécu spontané de contact avec un défunt. Il s'agit de contacts que des gens vivent après avoir perdu un proche, mais sans l'intervention d'un tiers, comme un médium par exemple. Et depuis plusieurs années en Suisse, une femme s'intéresse beaucoup à ces expériences. Elle y a même consacré sa vie et de nombreuses études, toujours en cours aujourd'hui. Elle s'appelle Evelyne Elsesser, c'est même elle qui a créé ce nom de VSCD avec Stéphane Alix. Elle me donne rendez-vous un après-midi de janvier 2024 en visio, car plusieurs centaines de kilomètres, malheureusement, nous séparent.
Bonjour
Evelyne, comment allez-vous?
Bonjour Guillaume, ça va et vous?
Eh bien écoutez, très bien.
Oui, ben, je suis très contente aussi. Est-ce que vous m'entendez bien?
Ouais, On y va ?
Parfait, on y va.
Allez, bah écoutez, c'est parti. Alors avant de parler de ces VSCD, du travail considérable que vous faites maintenant depuis plusieurs années, en lien d'ailleurs avec l'université britannique, vous nous expliquerez tout ça. Moi j'aimerais, je vais peut-être être un petit peu indiscret, mais j'aimerais quand même savoir ce qui vous a amené à vous intéresser à ces questions. Est-ce que c'est le hasard le plus complet ? Est-ce que c'est un événement de la vie en particulier ? Est-ce que vous aviez une propension particulière de par votre formation ou votre parcours, votre histoire personnelle à vous intéresser à ces questions ?
Disons, mon intérêt a commencé déjà quand j'étais très jeune. Je m'interrogeais énormément sur les questions existentielles. Ça me travaillait beaucoup et j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Et par chance, je suis tombée sur le livre de Moody, le fameux « La vie après la vie ». Et tout de suite, j'étais vraiment tellement intéressée par les témoignages des gens. Je me suis dit, là, il y a beaucoup de choses à creuser, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé d'abord à beaucoup m'intéresser aux expériences de mort imminente et à travailler sur ce sujet, à collaborer avec des gens. Pendant une vingtaine d'années, j'étais impliquée un peu dans la recherche sur les EMI sans avoir fait moi-même vraiment un projet de recherche comme je le fais maintenant sur les VSCD. Donc ça a duré assez longtemps. Et c'est là où j'ai eu vraiment le plaisir et la joie de rencontrer Kenneth Ring, qui est un peu le père de la recherche moderne sur les expériences de mort imminente. Je me suis dit, je vais lui écrire, mais ça m'étonnerait qu'il me réponde. Il écrit à l'université du Connecticut, où il enseignait la psychologie. Et effectivement, il m'a répondu le lendemain. Et il m'a dit, venez, et on peut faire un entretien. Alors, j'y suis allée, je me suis rendue au Connecticut et nous avons fait ce qu'il a toujours appelé l'entretien le plus long de sa carrière. Peu après, en fait, on a commencé à collaborer. Il a tenu à ce que nous soyons les co-auteurs de cet ouvrage, Lessons from the Light, qui est un de ses ouvrages les plus importants, je dirais. Après, il y a 12-13 ans, j'étais à une conférence sur les EMI au Texas. Et puis, ça a vraiment éveillé mon intérêt pour les VSCD. Après, j'ai écrit un article dans Inexploré, donc le magazine de Stéphane Alix. Je parlais des VSCD et j'ai fait un appel à témoignages.
Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Beyond. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui compte beaucoup pour l'INRES, Evelyne Alsasser, qui a publié très récemment ce livre « Quand les défunts viennent à nous ». Il s'agit du premier livre, de la première étude sur ces phénomènes qui sont vécus par des centaines de milliers de personnes, de contacts supposés avec des personnes après un décès. Evelyne a rejoint l'INRES dès sa création, il y a presque 10 ans aujourd'hui. Je suis ravi de vous la présenter.
Ce livre a vraiment eu beaucoup de succès auprès du public et je me suis dit, mais c'est un sujet qui intéresse les gens. Donc, c'était une première indication pour moi que là, il y avait vraiment quelque chose à creuser. Et ensuite, j'ai reçu énormément d'emails de gens qui m'ont dit, j'ai lu votre livre « Quand les défunts viennent à nous » et je suis tellement content ou contente d'apprendre que je ne suis pas la seule personne au monde qui a vécu ça. Parce que moi, ça m'est arrivé et j'en ai pas parlé autour de moi. Ou des fois, ils disaient, j'en ai parlé autour de moi, mais personne ne m'a cru. J'ai été ridiculisée. On m'a dit, tu es un peu déprimée, tu es en deuil. Donc forcément, tu t'es imaginé avoir vécu ça. Et donc souvent, c'est difficile pour eux de partager cette expérience qui pourtant est tellement importante. Et donc, en lisant toute cette correspondance, je me suis dit, maintenant, le moment est venu pour faire un vrai projet de recherche, une vraie enquête sur ce phénomène pour le faire connaître, mais pas juste par les témoignages qui sont très importants, mais en plus, il manque le volet recherche. Recherche scientifique, rigoureuse, sérieuse, bien menée, il faut les deux. J'ai fait appel à des psychologues de l'université de Northampton qui m'avaient été recommandés.
En Angleterre ?
En Angleterre, oui. Nous avons élaboré un questionnaire extrêmement détaillé avec 194 questions. Ça prend à peu près 2 heures pour remplir le questionnaire. Et on l'a mis en ligne en 3 langues, en français, en anglais, en espagnol. On voulait tout de suite partir sur une enquête multilingue, donc internationale. Et c'est resté en ligne 6 mois et on était vraiment très, très étonnés et absolument ravis parce que plus de 1000 personnes ont rempli nos questionnaires dans les 3 langues. Alors déjà d'emblée, ça nous a donné plusieurs informations. Déjà que beaucoup de gens vivent ces expériences, ça on le savait déjà de la recherche, entre 50 et 60% des gens vivent un VSCD spontanément au cours de leur existence. Donc c'est quelque chose de tout à fait commun et de très, très courant. Ça nous a montré aussi que les gens tenaient beaucoup à cette expérience, que c'était important pour eux et qu'ils étaient prêts à remplir un questionnaire de 194 questions.
Oui.
De prendre 2 heures sur leur journée pour faire ça. Et les gens nous disaient, mais voilà, ça fait plaisir vraiment de participer à cette enquête parce qu'on voit que maintenant on est pris au sérieux dans notre vécu. Actuellement, nous menons la même enquête en chinois. Et ça va être très intéressant de voir. Il y aura, nous supposons, des différences culturelles, peut-être pas dans la phénoménologie, peut-être qu'ils vivent la même chose que les Européens que nous avons consultés jusqu'à présent. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas que des Européens, il y a pas mal de Sud-Américains qui ont rempli le questionnaire en espagnol et il y a aussi des Américains qui ont rempli le questionnaire en anglais.
Qui était au départ une quête personnelle, si j'ai bien compris, et d'un intérêt personnel,
ouais.
Vous en avez fait quelque part aussi un peu l'œuvre de votre vie aujourd'hui, on peut dire les choses comme ça.
On peut dire les choses comme ça.
Alors, rentrons dans le détail des VSCD, un VSCD, c'est quoi exactement ce vécu subjectif de contact avec un défunt? Ça peut revêtir d'abord plusieurs formes.
Absolument. Un VSCD se produit lorsqu'une personne perçoit de manière inattendue un défunt, qui peut être un proche, qui peut être quelqu'un qu'ils connaissent mais dont ils ne sont pas proches, qui peut même être un inconnu, mais sans intention ni sollicitation de la part de la personne qui vit l'expérience.
C'est ça, c'est-à-dire que le côté spontané, au moment où ça se produit, la personne qui dit avoir vécu ce contact ne pense pas forcément au défunt. C'est quelque chose qui arrive comme ça de manière totalement inattendue. C'est ça le côté spontané de l'expérience.
C'est ça le côté spontané. C'est par opposition au fait d'aller voir un médium dans l'espoir que le médium perçoive le défunt et puisse nous transmettre un message. Nous, on parle de contacts spontanés qui se produisent sans qu'on s'y attende, sans qu'on y croit, ça c'est important, et puis sans y penser, les gens sont dans leur quotidien, ils sont en train de travailler, de conduire, de faire les devoirs avec leurs enfants, et tout d'un coup, le défunt se manifeste.
Sans que l'on y croie, vous dites c'est important, c'est qu'effectivement, parmi tous ces gens qui ont témoigné, beaucoup vous ont dit, mais ce genre de choses, j'y crois pas ou j'y croyais pas au moment où je vis cette expérience. Ça représente une proportion importante des gens qui le vivent, ça?
Il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Avant, ça s'est produit et après, bien sûr, ils changent leur point de vue parce qu'ils l'ont vécu et pour eux, il n'y a aucun doute possible, c'était réel, c'était authentique. Le défunt est effectivement encore en vie et a réussi à prendre contact avec eux. Mais le fait de croire dans la survie de la conscience n'impacte absolument pas la probabilité de vivre un tel contact.
Je m'arrête là-dessus un instant. Quand vous dites pour eux, il n'y a aucun doute, c'était réel. C'est cette notion de réalité qui m'intéresse.
Oui.
Qu'est-ce qui, chez ces gens, leur fait dire qu'effectivement, ils sont convaincus d'être rentrés en contact avec leurs défunts, leurs proches disparus, ne pas avoir vécu une forme de rêve, une forme d'hallucination, voire d'expérience modifiée de conscience, même si le terme était parfois un peu large et un peu galvaudé. Qu'est-ce qui les rend si sûrs d'eux, finalement?
Je pense que ce sont peut-être les émotions ressenties et perçues de la part du défunt, parce qu'un VCD, c'est beaucoup plus que la simple perception du défunt. C'est pas juste une vision de quelques secondes du défunt qui apparaît, qui disparaît. C'est beaucoup plus que ça. Le défunt apparaît, il le perçoit, il le voit, il l'entend, il le sent. Mais il se passe quelque chose, il se passe une communication. Et je pense que leur conviction de l'authenticité vient de cet échange qui est très souvent chargé d'amour, d'émotion, de réconfort. Le défunt, il leur dit, c'est aussi les messages qui sont perçus, je pense, qui rendent cette expérience tellement impactante. Le message le plus important et le plus courant des défunts, c'est qu'ils disent à leurs proches, je suis en vie. J'ai survécu à la mort de mon corps physique. Je continue à exister et je suis toujours dans ta vie. Je suis toujours à tes côtés. Je sais ce qui se passe dans ta vie. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est très dur, le deuil. Mais arrête de pleurer. Je suis là. J'existe. Je suis plus à tes côtés dans le quotidien, mais je suis encore là avec toi. Donc, il y a vraiment les émotions de cette affection, de cet amour, de ce soutien qu'ils sentent de la part de leurs proches décédés. Je pense que c'est ça qui les impacte très fortement. Et la conviction aussi qu'ils acquièrent immédiatement cette vie, c'est vrai, il est en vie, il est là, il a survécu à la mort du corps. Et ça, ça change tout.
J'aimerais que vous... Alors, on a déjà, vous avez déjà commencé à nous expliquer, Evelyne, qu'il y a différentes formes. On voit,
oui.
On entend, on ressent par le toucher, par le tactile, ou voire même par l'odeur. Ça, c'est vraiment très varié. L'authenticité telle qu'elle peut être ressentie par la personne qui vit cette expérience est la même selon les formes que ça peut prendre.
Ça, c'est très bien de le souligner, Guillaume. Il se manifeste par 4 des 5 organes sensoriels. Ils peuvent être visuels, donc les apparitions, auditifs, on entend le défunt, soit comme vous m'entendez parler, comme une voix qui vient de l'extérieur, soit quelque chose qui se produit dans la conscience du récepteur ou dans la tête du récepteur, si vous voulez, qui s'apparenterait donc à une communication par télépathie. Mais ils disent très clairement, ce n'était pas une pensée. Ça venait du défunt, mais je n'ai pas entendu sa voix comme une voix qui venait de l'extérieur. Ça s'est produit dans ma tête, mais ce n'était pas une pensée. Après, nous avons les VCD olfactifs, tactiles et de ressenti d'une présence. On sait que le défunt est là, on sait quand il arrive, on sait quand il repart. Ils peuvent même le localiser dans l'espace. Ils disent par exemple... Mon mari décédé se tenait devant moi, un peu sur ma gauche. Je ne pouvais pas le voir, mais je savais qu'il était là. C'est comme s'il y avait une densité dans l'espace qui était reconnaissable.
C'est la forme peut-être la plus subtile de toutes, d'ailleurs.
Oui, vous avez raison. On peut dire la plus subtile, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure très justement, toutes les formes de VCD ont le même impact sur le récepteur, quel que soit le type de VCD. Une apparition a autant d'impact sur le récepteur qu'un VCD ressenti d'une présence. Il n'y a pas de hiérarchie de VCD plus impactant ou moins impactant, quelle que soit la manière sous laquelle les défunts se sont manifestés, l'impact est le même. Et après, nous avons bien sûr les VCD pendant le sommeil. Ça représente un peu plus de la moitié de nos sondés, pour qui le contact s'est produit pendant le sommeil, mais 52% étaient réveillés par le contact.
Ah, donc c'est pas un rêve. Voulez... Donc c'est pas un rêve.
Donc c'est pas un rêve. De toutes les façons, même pour ceux qui se sont pas réveillés, ils ont dit c'était pas un rêve. Ça n'a rien à voir avec un rêve. Des fois, ils disent, et ça, c'est souvent qu'on entend ça et c'est intéressant, ils disent, j'étais en train de rêver quand le défunt est entré dans mon rêve, a fait irruption dans mon rêve, et après le contact s'est établi. Ça, c'est intéressant. Il ne rêvait pas du défunt, il rêvait d'autre chose, il rêvait de quelque chose. Quand tout d'un coup, le défunt a fait irruption dans le rêve. Ça, on entend assez souvent.
Est-ce que cela arrive avec des enfants? Quand on a perdu un enfant, est-ce que vous avez parmi vos, les personnes qui ont témoigné une proportion de gens qui disent avoir vécu ce contact avec un enfant décédé?
Bien sûr, ça arrive, mais heureusement, il n'y a pas une très grande proportion de la population qui a perdu un enfant. Donc, ça arrive en avant-dernière position de notre classement. Et en toute dernière position, on a un contact avec un frère ou une sœur décédée. Mais pour les enfants, bien sûr, ça arrive. D'ailleurs, il y a pas mal d'associations pour les parents en deuil en France avec qui je suis en contact. Et ils me racontent très, très souvent qu'ils ont eu un contact avec leur enfant décédé.
Vous avez fait un travail considérable, cette étude internationale qui est toujours en, elle est toujours en cours aujourd'hui, votre étude, oui.
Elle est toujours en cours, oui. Oui, c'est une étude de longue durée. Donc, je vous ai dit maintenant, on fait l'enquête en chinois. Oui. Après, il y a d'autres groupes linguistiques qui vont suivre. Donc, ce n'est pas du tout un projet délimité par le temps. C'est un projet à durée ouverte.
Votre travail devrait être reconnu d'utilité publique. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable ce que vous... Tous ces témoignages, quelles que soient les conditions, les univers, sociologiques, culturels, religieux, les circonstances, qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant? Qu'est-ce que vous, Evelyne, vous espérez maintenant par rapport au travail que vous continuez de mener et que vous allez continuer de mener dans les années qui viennent en lien avec ces scientifiques avec lesquels vous travaillez? J'ose pas parler d'une reconnaissance officielle que voilà, notre conscience survit à notre cerveau, mais tout de même, quand même, je veux dire, j'ai envie de dire, les faits sont là, quelque part, non?
Et moi, je suis très optimiste. Moi, je vois qu'il y a énormément d'intérêt pour notre travail. Vraiment, notre travail est très bien reçu. Aussi mes livres, parce que j'ai écrit un livre qui présente les résultats de cette enquête, qui s'appelle « Contact spontané avec un défunt ». Et vraiment, ce livre a beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que les gens s'intéressent au sujet. C'est un sujet qui interpelle les gens, ils sont ouverts, ils ont envie de savoir. Bien sûr, bon, je sais qu'en France, c'est peut-être un peu plus difficile, en Suisse, je crois que c'est un peu plus facile, et surtout aux États-Unis, en Angleterre, il y a vraiment beaucoup d'intérêt. Maintenant, ça fait rien, vous savez, chacun est tout à fait libre d'être intéressé ou de ne pas intéressé, de lire là-dessus et de ne pas être convaincu. Ça, c'est, j'ai aucun problème avec ça, bien sûr, chacun, après, on fait ce qu'il veut, mais moi, mon travail... Je ne vais pas dire ma mission, ça fait un peu trop, mais vraiment, mon devoir ou mon travail ou mon objectif, c'est de faire connaître les résultats de notre enquête. C'est ça mon travail, de faire la recherche et de disséminer l'information. Après, chacun en fait ce qu'il veut.
Le Pays d'Ange, ce livre que vous venez d'écrire, là, c'est une démarche totalement différente que... qui s'en rapproche beaucoup quand même, que vous avez eu là. On n'est pas sur l'étude scientifique, là.
Oui, tout le monde ne lit pas les ouvrages scientifiques. Tout le monde ne lit pas les articles dans des revues scientifiques. Donc, je me suis dit, comment transmettre toutes ces informations, tous ces résultats de notre recherche au plus grand nombre? C'était vraiment ça mon souci. Et je me suis dit, peut-être une bonne idée, c'est d'écrire juste une histoire sous forme de roman, mais où je peux donner énormément d'informations sur les expériences liées à la mort. C'était ça l'idée, que ce soit accessible pour les gens qui lisent pas des ouvrages scientifiques, mais qui s'intéressent quand même à ces questions spirituelles. Je souligne tout de suite, et c'est important de le dire, ce n'est pas un livre pour enfants. C'est un livre pour adultes, évidemment. C'est un livre pour adultes qui montre que quand tout est perdu sur le plan physique, quand on est très malade et on a peu de chances de s'en sortir, et plus ça va, plus on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir guérir, on va devoir mourir, quitter ce monde. Là, quand tout est perdu, quand il y a vraiment le désespoir qui est profond, il y a en fait un nouvel espoir qui peut naître, et c'est l'espoir de la survie de la conscience. On se dit, d'accord, je vais mourir, mais peut-être que moi, ma conscience, mon être profond, moi, je vais peut-être survivre à la mort de mon corps. C'est ça le sujet du livre.
C'est un message d'espoir que vous délivrez.
C'est effectivement un message d'espoir. C'est vraiment un livre qui parle de l'espoir. Qui parle de l'espoir quand tout est perdu sur le plan physique. En fait, rien n'est perdu et tout est encore à gagner. Pas à gagner. Tout est là qui nous attend quand nous aurons quitté notre corps. C'est là où vraiment les choses magnifiques commencent. Et ça, pourquoi je dis ça? C'est pas moi qui le dis. C'est les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente qui le disent. Ils disent, c'est incomparablement plus beau et plus vrai et plus intense et plus magnifique que tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie physique. Vous voyez, c'est pas du tout moi qui dis ça. Ce sont les gens qui ont vécu ces expériences de mort imminente. Donc oui, c'est un livre d'espoir. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup, Guillaume. Ben,
merci, c'est moi qui vous remercie, Evelyne. Moi aussi. À bientôt. J'espère. À bientôt. Merci.
Quand on perd un proche, on n'a pas toujours cette chance de le voir, quelques secondes, de l'entendre ou de ressentir sa présence. Alors certains, à cause de la lourdeur de leur deuil, cherchent des signes, de petits signes, que beaucoup croient insignifiants, mais qui, quand ils y prêtent attention, sont souvent source d'espoir et de réconfort pour celles et ceux qui souffrent de l'absence soudaine de l'être aimé. Le pire des deuils, c'est bien sûr celui d'un enfant, la peur absolue de tous les parents. Et la suite de mon enquête va me conduire vers Sandra. Sa fille, Axel, s'est tuée il y a quelques années dans un accident de voiture. Elle va peu à peu surmonter son deuil grâce aux nombreux signes qu'Axel va lui envoyer.
L'invisible à l'œil nu. Une enquête autoproduite de Guillaume Roulant. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.